DSM Interprétariat par déplacement. Bonjour, d'accord, votre écoute.
Qui me plaît énormément de ce nouveau métier, c'est l'implication qu'on doit avoir, l'exactitude de la traduction. C'est très très important parce qu'en fait, c'est une grande responsabilité parce que la vie de cette personne, l'avenir de cette personne, c'est pas qu'elle est complètement entre mes mains, mais ma traduction compte beaucoup pour que cette personne puisse se défendre.
Bienvenue à toutes et à tous, c'est Émilie, la soifée des rêves accessibles. Je vous invite à prendre un virage à 180 degrés. Dans ce podcast, vous écouterez des parcours de reconversion professionnelle, voulus ou subis, de femmes et d'hommes qui m'ouvrent leurs portes un peu partout en France. Cette immersion est l'occasion de mieux comprendre les étapes de changement de vie et sûrement de vous livrer quelques clés loin des idées reçues qui permettent de se dire que tout est possible.
À 180 degrés.
Parmi les métiers les plus touchés par la crise de la Covid-19, il y a celui de guide touristique. Nombreux sont ceux qui n'ont pas eu d'autre choix que de se reconvertir. C'est le cas de Cristina De Lucena, qui à 55 ans a su trouver une autre voie professionnelle pour sa plus grande satisfaction. Quand basculer d'une vie dans les musées à une vie moins rêvée permet de trouver son utilité dans la société.
Attention à la marche, en descendant.
Bonjour Cristina.
Hola Emilie, que tal?
Muy bien? Si? Je vais pas aller plus loin parce que je suis pas très douée en espagnol. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver à Paris et pas n'importe où, au Louvre. Le Louvre, qui était votre dernière sortie en tant que guide touristique, alors que maintenant vous êtes interprète juridique médico-social. Cristina, ça fait plus de 34 ans que vous êtes en France. Vous êtes chilienne, vous êtes arrivée en 88.
Alors j'avais étudié à l'Alliance française toute mon scolarité, donc je parlais français, j'étais bilingue. Et c'était un pays que je voulais quitter, le Chili, pour ses problèmes, ses difficultés. Et la France, c'est un pays qui m'attirait énormément. J'étais tombée amoureuse de Paris la première fois que j'étais venue, quand j'avais 17 ans. Donc pour moi, c'était une évidence, Paris.
Vous avez passé votre bac au Chili avant de faire des études à la base d'ingénierie commerciale, économie et gestion à l'université du Chili. Rien à voir ?
Mon projet au Chili, quand j'étais là, c'était de devenir ingénieur commercial. C'est comme un commercial, voilà. Et en arrivant à Paris, j'ai voulu profiter plus de mes langues. J'ai appris d'autres langues. Hein. J'ai commencé à réapprendre l'anglais, apprendre le portugais.
Une fois en France, vous êtes devenue secrétaire bilingue.
Oui, j'ai commencé à travailler pour des entreprises qui travaillaient avec l'Espagne. Donc j'étais secrétaire bilingue pour Rang Xerox, par exemple, une entreprise à l'époque qui travaillait avec l'Espagne.
Et vous avez rencontré votre mari qui, lui, avait une agence de voyage. Ça vous a donné des petites envies touristiques?
Oui, évidemment, je suis tout de suite partie avec lui. Et je suis devenue employée de sa boîte. J'ai commencé à travailler comme secrétaire bilingue. Et petit à petit, le profil de devenir guide s'est complètement présenté à moi. Et j'ai foncé dedans, j'ai voulu être guide.
Pour devenir guide, vous avez dû passer une licence à l'Université de Nanterre en histoire de l'art.
Ça s'appelle licence professionnelle de guide conférencier. On a le diplôme de guide conférencier, c'est l'équivalent à une licence en histoire de l'art. Après, j'ai intégré tout le milieu des guides, Paris City Vision, j'ai fait des accompagnements, j'ai fait du guidage et voilà, ma vie a tourné toujours autour. J'étais salariée de Paris City Vision et je suis devenue auto-entrepreneur. C'était plus avantageux parce que j'avais d'autres langues aussi. Hein. Je suis devenue guide conférencier en anglais, en français, en espagnol et en portugais. C'était un métier passionnant parce que je faisais un Versailles le matin, un Louvre l'après-midi, j'allais au château de la Loire, je suis allée à Giverny et à chaque fois je devais étudier, apprendre, préparer mes tours et vraiment, je pense que tous les guides adorent ce métier parce que chaque jour on apprend des choses, on découvre des lieux et à chaque endroit on revient avec plus d'envie de découvrir plus et montrer d'autres choses aux gens à chaque fois.
On l'entend, c'est un métier qui vous a rendu très heureuse. Bah jusqu'à la crise sanitaire, jusqu'au 13 mars, où votre dernière visite, ça a été le Louvre.
13 mars, et se ferme le rideau, et se ferme tout le tourisme pour nous. C'était terrible, hein. Vraiment, on s'est rendu compte peut-être 5 jours après, mais c'était le 13 mars que tous les musées ont commencé à fermer, plus de groupes. C'était une période difficile et aussi très angoissante, parce qu'au même moment où les musées fermaient et tout, on se rendait compte que nous, on travaillait avec tous ces groupes qui voyageaient en Europe, qui venaient d'Italie, d'Espagne et tout, et aussi très triste parce que tout ça, on a perdu deux collègues, deux de mes collègues qui sont décédés du Covid, parce qu'on qu'on était à ce moment-là, vraiment, on était en contact jusqu'au 13 mars avec tous ces groupes qui bougeaient dans toute Europe. Des Italiens, qui venaient des groupes qui venaient d'Italie, d'Espagne. Et les premiers pays les plus atteints que la France, avant, c'était l'Espagne et l'Italie. Donc, c'était très difficile. Non.
Comment on arrive à gérer une période où vous travaillez, où vous gagnez quand même bien votre vie, à une période où on se retrouve à l'arrêt ?
C'est très dur, c'est très choquant, angoissant, mais on a tous vécu ce moment-là, hein, ce confinement. Donc je pense que le premier souci de chaque personne, c'était sa santé et la santé de ses proches. Donc le côté travail, de quoi je vais vivre, ça se passe après. Aujourd'hui, je protège ma famille, mes enfants, mon mari. C'était ça l'essentiel, non ? Et comme j'étais aussi salariée, heureusement, j'ai eu des aides, des indemnités journalières. Grâce à Pôle emploi, j'ai pu bénéficier des indemnités journalières. Donc on s'est en sorti comme ça. Notre niveau de vie a énormément baissé. Mais en même temps, comme tous on était enfermés, on ne sortait pas vraiment. La vie a changé pour tout le monde, pas que pour moi, je pense.
Donc en octobre 2020, vous avez eu l'opportunité de faire une formation Active Créa pour apprendre à faire votre Instagram, je crois. Parce que pendant le premier confinement, vous avez eu une idée, c'est de proposer des tours à vélo pour faire découvrir Paris.
L'idée est venue de continuer à essayer de faire mon métier. J'ai pris le vélo, j'ai filmé, je parlais, j'enregistrais et je voulais partager ça avec mon public qui était plus là d'ailleurs. Et donc il fallait le chercher sur Instagram, sur les plateformes. D'abord c'est la famille, les amis et c'était sympa, mais c'était quelque chose que je ne savais pas faire. Donc comme Pôle emploi proposait ces formations, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était des formations online évidemment, on était tous confinés, donc j'ai fait ces formations et je trouvais très intéressant et j'ai monté mon Instagram, ce qui m'a permis de me faire connaître comme peut-être une guide écolo à Paris.
À noter, donc Active Créa est une prestation proposée aux demandeurs d'emploi indemnisés ou non qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Mais je crois que parallèlement, vous avez voulu aller plus loin avec les indemnités journalières qui vous ont permis de payer une formation de l'Alliance française afin de devenir enseignante France langue étrangère.
J'ai bien vu que l'Instagram, que je n'étais pas une super influenceuse, et aussi...
Il faut du temps.
Oui, il faut beaucoup de temps, et que ce n'était pas comme ça que j'allais gagner ma vie. Et donc, beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu ne donnes pas des cours de français ? Les contacts que j'ai à l'étranger, mes clients aussi qui me contactaient. Et donc, je me suis dit, OK, mais pour donner des cours de français, il faut savoir donner des cours de français. Donc, je suis retournée à mes amours avec l'Alliance française, et j'ai contacté, et j'ai, grâce aux indemnités journalières de Pôle emploi, j'ai pu réussir à me faire payer ces formations, et je suis devenue enseignant FLE, français langue étrangère.
Résultat, vous avez réussi tous les modules avec succès. Et ce qui vous a permis d'avoir vos deux premiers élèves chiliens en ligne.
De jeunes enfants, un qui a 15 ans et l'autre qui a 14 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est mes élèves. Je les ai tous les week-ends et ça m'a permis de pratiquer ce que je venais d'apprendre et aussi de continuer à avancer et devenir un prof. C'est sympa, c'est très chouette d'être prof en fait.
Alors j'imagine que parallèlement, vous recherchiez du travail, parce qu'avoir deux élèves en ligne au Chili, ça ne vous permettait pas de vivre.
Et surtout qu'au bout d'un moment, les indemnités elles s'arrêtent. J'ai plus d'indemnités journalières, j'ai deux élèves, on ne peut pas vivre de ça. Donc j'ai commencé à chercher du travail, à voir qu'est-ce que je pouvais faire. Et un jour, je tombe sur une annonce ISM Interprétariat. Et je suis allée voir qu'est-ce que c'est que l'ISM. Et c'est là où je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, là, je vais aller au siège. Vous voulez m'accompagner ? Comme ça, vous allez découvrir les bureaux de l'ISM.
Allez, je vous accompagne.
Bonjour Sarah.
Bonjour Christina. Bonjour Émilie.
Bonjour Sarah.
Bienvenue au sein de l'association. J'espère que ta semaine s'est bien passée, Christina.
Oui, c'était parfait. Merci Sarah.
Bon, très bien. Alors, je sais que d'ici 20 minutes, tu as un petit débrief avec Amel. Donc, si ça te convient, je redescends d'ici peu pour qu'on puisse monter ensemble au service interprétariat par déplacement.
Christina, on peut dire que c'est un peu votre nouvelle maison maintenant, ISM Interprétariat. Alors j'avoue, je ne connaissais pas particulièrement cette association qui existe depuis maintenant plus de 50 ans. Quelles sont ses missions ?
Alors en fait, quand j'ai découvert, je ne connaissais pas non plus l'ISM. J'ai découvert une annonce sur Internet et j'ai postulé. Et en fait, c'est une association incroyable, donc elle vient en aide aux gens dans le besoin. ISM, ça veut dire Inter-Service Migrant. Donc on vient en aide à tous ces gens-là qui n'ont pas ne parlent pas français et qui ont besoin de faire toutes leurs démarches pour une nouvelle vie, la plupart, une nouvelle vie en France. Le sujet m'a énormément plu, c'est pour ça que je suis rentrée dedans et postulée. Et depuis fin septembre, je suis là.
Comment s'est passé en fait les démarches pour pouvoir y entrer ?
En fait, j'ai postulé, Après, j'ai eu un entretien téléphonique. Après, j'ai eu un entretien en présentiel. Et j'ai passé des tests. Il fallait passer des tests de langue. J'ai évidemment réussi, heureusement, l'espagnol. Mais le portugais est resté en suspens. Je n'ai pas réussi ce test.
Donc, vous travaillez désormais pour l'ISM du lundi au vendredi, où vous faites de l'interprétariat médico-social. C'est quoi exactement ?
Et dans les horaires de bureau, hein, 9h, 18h, je ne suis pas salariée, je suis auto-entrepreneur. J'ai le droit d'accepter ou de ne pas accepter si j'ai quelque chose d'autre à faire. Médico-social, ça veut dire que je me déplace, c'est interprétariat en déplacement. Je vais me déplacer au CHU, au GHU, à certains hôpitaux et aider les gens, interpréter, traduire pour les gens qui n'ont pas les moyens, qui font appel à cette association. Pour la plupart, c'est des migrants qui sont la plupart très souvent en détresse et avec des difficultés. Et on est là pour traduire tout ce que les médecins vont leur dire. Et en parallèle au médico-social, je fais aussi de l'interprétariat juridique. Il y a des jours où je suis à l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides. Et aussi à la CNDA, qui est la Cour nationale du droit d'asile. Je vais à droite, à gauche. Ce qui est sympa dans le déplacement, c'est le matin, je suis à Saint-Denis. L'après-midi, je peux être à Suresnes. Après, je suis à Montreuil le lendemain parce que c'est la cour. Et finalement, ça, c'est le côté peut-être qui me manquait un peu du côté tourisme, bouger partout. Et j'adore ça.
Est-ce qu'il y a des différences quand vous travaillez à l'OFPRA ou à la Cour nationale du droit d'asile ?
Pour l'OFPRA, par exemple, les immigrants, c'est leur demande. Ils vont faire leur demande de réfugiés, d'asile. Et donc l'OFPRA, c'est un premier rendez-vous pour eux, plus tranquille, parce qu'il y a un officier de protection, il y a moi, l'interprète, et il y a lui. Que trois personnes dans une petite salle. Et c'est pour lui poser des tas de questions pour son dossier. La cour, c'est différent, parce que c'est une fois qu'on a été refusé par l'OFPRA, c'est-à-dire que l'OFPRA n'a pas répondu positivement à la demande d'asile, la personne a le droit quand même, elle a 30 jours pour faire appel. Elle a le droit aussi d'avoir un avocat et un interprète gratuit. Et donc, une fois à la cour, on va défendre son cas. Donc, c'est une cour d'appel. Et là, c'est un peu plus impressionnant parce qu'il y a au moins 8 personnes autour. Et au début, quand j'ai commencé, c'était ce qui me faisait le plus peur d'ailleurs, hein, la cour.
Ça doit être impressionnant quand même et peut-être un peu stressant parce que c'est une grande responsabilité.
Oui, tout à fait, c'est ça qui me plaît énormément de ce nouveau métier. C'est l'implication qu'on doit avoir, l'exactitude de la traduction. C'est très, très important parce qu'en fait, c'est une grande responsabilité parce que la vie de cette personne, l'avenir de cette personne, et c'est pas qu'elle est complètement entre mes mains, mais ma traduction compte beaucoup pour que cette personne puisse se défendre.
Et il faut une grande empathie, j'imagine.
Au début, on pense ça, c'est très difficile parce qu'on a énormément d'empathie. Mais justement, cette empathie-là, je crois qu'avec le temps, il faut la gérer. Parce que l'excès d'empathie aussi, après, chez toi, quand tu rentres à la maison le soir, tu n'arrêtes pas d'y penser au drame. Parce que finalement, à la cour et à l'OFPRA, c'est venir aider les gens. Plus que c'est différent du socio-médical parce que c'est la maladie dans le socio-médical, mais là, c'est l'avenir, c'est la vie de ces gens-là. Et c'est des gens qui viennent avec énormément de souffrance et avec un parcours très, très dur. J'ai dû traduire des viols, des séquestrations, énormément de souffrances sur les gens. Et là, je me suis sentie énormément plus utile que dans le tourisme de masse.
C'est quoi, du coup, votre méthode un petit peu pour décompresser tout ça ?
Quand je sors de la cour, j'aime bien marcher 2-3 kilomètres pour rentrer chez moi plus zen et assimiler ça, et essayer de me détacher un peu de cet excès d'empathie. Qu'on souffre un peu au début, je pense, parce que je suis débutante, c'est mon nouveau métier, donc j'essaie de gérer ça. La semaine dernière, c'était particulièrement dur pour moi, parce que j'ai eu un cas, ce qui m'a beaucoup marqué. C'était un jeune garçon de 18 ans, qui était hospitalisé en hôpital psychiatrique, et sa mère venait apprendre le diagnostic. Et donc il fallait annoncer à sa mère que ce gamin souffrait de la schizophrénie. C'était très touchant, j'étais assez bouleversée, et la maman, imaginez-vous, annoncer à votre fils qu'il a ça, qu'il a 18 ans, et qu'il démarre une schizophrénie, c'est des maladies sans fin, enfin, on souffre de ça à vie, et qu'il va falloir gérer, et tout ça. Et donc ça m'a énormément touchée, parce que moi-même, je suis maman, et donc ça, c'est dur. Coucou Amel, c'est Christina.
Ah, coucou Christina.
Bonjour.
Bonjour, je suis avec Émilie.
Ça va, tu vas bien ?
Oui, ça va très bien.
Très bien. Alors, je profite comme tu passes au siège pour faire le point sur tes vacations, sur comment ça se passe sur le terrain.
Oui, c'était bien. En fait, les choses se passent bien, mis à part de temps en temps des petits cas un peu durs. La semaine dernière, j'ai eu un cas un peu difficile moralement, psychologiquement pour moi, parce qu'il s'agissait d'un jeune garçon et moi, j'ai des garçons. Donc, c'était un peu comme ça. Mais sinon, d'autres fois, cette semaine, en fait, j'ai eu des familles où les choses se passent bien, des bonnes nouvelles pour certaines familles. Tu sais, un des jeunes qu'on suit et tout, il a réussi à trouver la formation qu'il voulait. Sa réinsertion professionnelle se passe bien. Il est heureux, j'ai vu son sourire et ses yeux qui pétillaient, donc ça m'a fait beaucoup de bien.
Ça, c'est le bon côté de notre métier.
Amel, vous êtes référente ligne interprète. Si l'un des 500 interprètes de l'ISM a du mal un petit peu à gérer un cas qu'il a eu à traiter, comment est-ce que vous pouvez l'aider ?
Il y a une ligne, c'est ce qu'on appelle la ligne hotline, qui est spéciale pour les interprètes. Ils peuvent nous appeler sur cette ligne à tout moment. Ils peuvent échanger avec nous tout en gardant l'anonymat de la famille avec qui ils ont intervenu. Moi-même étant interprète, alors on peut faire un retour d'expérience, un échange de bonnes pratiques, échanger avec lui, le fait de parler avec quelqu'un qui connaît le métier, ça peut l'aider. On a aussi une ligne psychologique pour appeler un psychologue. C'est anonyme. Ils peuvent appeler et échanger avec un professionnel à tout moment également. Christina, n'hésite pas à m'appeler si tu rencontres un problème sur le terrain. Je suis là vraiment pour ça. La ligne des interprètes qui finit par le 57. Et au cas où tu veux parler à un professionnel, bah, y a la ligne que je t'ai notée ici pour avoir un psychologue.
Vraiment, je prends note de ce numéro parce que je pense que dans certaines occasions, c'est vraiment utile.
ISM Interprétariat par déplacement, bonjour, d'accord, votre écoute. Avec plaisir, quel est votre code client, s'il vous plaît? Vous souhaitez réserver pour quelle date, s'il vous plaît? Le 7 janvier à 14h en macédonien. Je vérifie tout de suite la disponibilité de nos interprètes en macédonien. Merci beaucoup, madame. Je vous confirme la réservation d'un interprète en macédonien pour le vendredi 7 janvier 2022 à 14h au 7 rue Berthaud Dumas à Neuilly-sur-Seine.
Christina, on vient de voir Darko qui est coordinateur, mais il est aussi interprète. Il est macédonien, il parle lui-même 5 langues différentes. Est-ce que vous vous côtoyez un petit peu au quotidien ou lorsque vous vous croisez à ISM Interprétariat? Est-ce que c'est un métier solitaire au final ou pas?
Quand tu es dans le médico-social, oui, on peut dire que c'est un petit peu solitaire parce que tu es tout seul avec le médecin, le patient et tout ça. Mais quand tu es dans les services de l'OFPRA, comme je t'en ai parlé, ou la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, et nous avons une salle d'interprète. Et ça, c'est très sympathique parce que le premier jour que j'arrive à cette salle d'interprète, pour moi, c'était la tour de Babel. C'était magnifique. Pas seulement d'autres langues, des dialectes et tout. Et c'est un public sympathique et les gens sont assez sympas. Donc, on rencontre quand même nos collègues dans ces espaces-là.
Est-ce que là, ça vous permet de bien vivre?
On ne peut pas comparer parce que c'est vrai que le salaire que j'ai aujourd'hui est beaucoup plus bas que ce que je gagnais en tant que guide. Je me serre énormément plus la ceinture, mais le métier que je fais est plus important que le salaire. On s'est adapté en famille à ce nouveau salaire, à ce nouveau revenu, et sincèrement, pour le moment, ça va. Peut-être que si le tourisme revient, et ça, je l'ai pensé à un moment donné, pour équilibrer justement ce côté émotion qui est un peu difficile au niveau de l'ISM, le combiner avec des petits tours le week-end, faire un Louvre, un Versailles, et peut-être aussi au niveau de mes ressources, ça irait mieux, mais plus tard.
Mais j'imagine pas dans les mêmes conditions de folie que vous avez pu connaître.
Je pense que même pour moi, le tourisme a changé. J'adore l'histoire de Paris, j'adore tous ces monuments, le Louvre, les musées, et être au courant de tout ce qui se passe, le présenter, mais d'une autre façon, à petite échelle, avec des petits groupes. Et je pense que ce sera ça l'avenir du tourisme quand même. Le tourisme de masse, vraiment, je pense que c'est fini.
Merci beaucoup Christina, une bonne continuation et à très vite.
Oui, merci Abélie, à bientôt.
À 180 degrés.